4 euros.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud aux pousses d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour et bienvenue à l'auditeur bon vivant. On a sorti l'argenterie et une belle nappe pour préparer le 31 avec vous en public ici au studio Merlin. Du chocolat, de la vanille, des idées pour un menu de réveillon sans le passer au fourneau. Et ça, c'est une très bonne idée, vous entendrez. Nous sommes fin prêts pour attaquer le réveillon du 31. Mais bon vivant, ne sent pas loin, vous pensez bien. Toujours créatif et à la recherche du meilleur de nos régions, il s'est mis sur son 31 pour notre réveillon avec sa belle chemise blanche. C'est Yves Candebordes. Bonjour Yves.
Je suis prêt pour 2020.
Pour lui, pas d'hésitation, la boisson officielle du 31 sera le champagne et il va le sabrer comme toujours avec panache. Olivier Pouls.
Bien sûr, et nous boirons d'autres choses, figurez-vous.
Jean-Luc Petit-Renaud nous dévoilera sa recette d'amuse-bouche du 31 et Marion Sauveur prépare son dernier journal de 2019. Et ben voilà, vous savez tout. Et pour partager tout ça, oui, il faut le dire quand même, nous recevons un comédien bon vivant. Clovis Cornillac viendra trinquer avec nous à table. Alors, avant d'aller à votre rencontre sur les marchés, comme on aime le faire tous les samedis aux alentours de 11h sur Europe 1, question difficile, les amis. Je vais vous demander de dévoiler votre goût, non pas de la semaine, mais de l'année. Quel est le goût qui a marqué votre année 2019? Je vous vois hésiter, Yves Candebordes, donc je donne la parole à Olivier Pouls. Comme ça, vous avez le temps de chercher.
Écoutez, moi, c'est un goût un peu mitigé. Et en même temps, je formulerai derrière un petit espoir. J'ai trouvé qu'en cette année, d'une manière un peu générale, la table n'a pas été aussi rassembleuse qu'elle doit l'être. Et je trouve que les débats autour du véganisme, de la défense, tout ça est entendable, bien sûr, mais je trouve que la table perd un peu de ce qu'elle doit être.
De
un
sa magie.
Ciment, une magie, un ciment, un lieu d'ouverture de débat où on dépose des armes. Et je formule, et ça, ce sera mon goût, que pour l'année prochaine, en 2020, on continue à se retrouver autour des beaux plats, que la table réunisse la famille et que tout le monde soit heureux de s'y asseoir.
La commensalité, voilà, le plaisir de se retrouver à table et de partager un bon repas. Alors, quel goût a marqué pour vous 2019, cher Yves Candebordes?
Moi, c'est une grosse émotion. J'ai fait une dégustation de vin jaune, de Pierre Auvernois. Je suis allé à Arbois, dans le Jura.
Un grand monsieur.
Un grand monsieur. Et j'ai eu la chance, pour la première fois de ma vie, de déguster un vin de mon année, 1964, un vin jaune 64, et j'en ai eu les larmes aux yeux. Et ça a été une vraie émotion, parce qu'en plus Pierre, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément, et qui est pour moi un peu le pape du vin jaune, et voire aussi du vin nature en France, m'a amené cette émotion, et ça restera le moment le plus important de 2019, en dégustation.
Un vin jaune avec un petit côté oxydatif, un petit côté noix. Il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie le vin jaune. C'est vrai que c'est très bon. Et là, c'est la saison des poulardes et des volailles de fête. Une poularde aux morilles et au vin jaune. Alors, ce n'est pas la saison des morilles, mais des morilles séchées que vous aurez fait tremper, par exemple, et que vous allez mettre dans une jolie sauce crémée avec du vin jaune. C'est le bonheur, ça, Yves Candebordes.
Ouais, c'est le bonheur. Hein, ça fait partie des grands classiques de la gastronomie française que le monde entier nous envie. On ne fait pas mieux que ça.
Ça rassemble, pour revenir à votre goût de l'année 2019, on était passé à table, bah là, Olivier Pouls, ça rassemble.
Ça rassemble, évidemment. Puis d'abord, le vin jaune est un vin qui vieillit extrêmement bien. C'est sans doute un des vins qui vieillit le mieux.
Il n'y a pas que le vin jaune qui vieillit bien. Hein.
Tout le monde, Yves Candebordes, regardez. Un perdreau de l'année.
Alors, je voulais dire, millésime 64, c'est pas si mal que ça. On va essayer de vous en trouver.
Mon goût de 2019, moi, c'est la mimolette. J'ai fabriqué de la mimolette dans le Nord pour une de mes émissions de télévision à la ferme du Wint à Brunembert. Et j'ai adoré ça parce qu'une mimolette avec un lait cru bio que je suis allé traire même directement avec l'éleveur. On a fabriqué cette mimolette ensuite avec ce petit goût de noix aussi de la mimolette qui est très agréable. Donc voilà, redécouvrons le pouvoir de la mimolette.
Mimolette vin jaune,
ça marche bien. Alors pour le dernier marché de l'année, Nathalie Chevance, vous savez, notre correspondante d'Europe 1 dans la région de Marseille, vous a demandé vos recettes du 31. Rendez-vous sur le marché d'Allo dans les Bouches-du-Rhône.
Ça sera des queues de langoustes cette année, en plat principal. Cuisiné sûrement avec une sauce à l'armoricaine. On accompagnera ça avec ça et peut-être avec un peu de riz. Ah, carrément. Cette année, ça sera ça, exceptionnellement, comme c'est repas de fête.
Vous, sur la table du 31 décembre, vous conseillez quoi?
Ben déjà, un bon plateau de coquillage pour commencer. Les encornés farcis avec un peu de riz, de l'ail, du persil, toutes les tentacules du calamar. Et on fait mijoter à l'intérieur de la sauce.
Et on boit quoi avec ça?
Pour commencer, on vient de Marseille, alors un petit jaune.
Vous mettez des coquillages dedans, des moules, des crevettes surtout, là, il a des très bonnes crevettes, ce monsieur. Vous pouvez y aller, là, c'est très frais.
Qu'est-ce qu'on mange le 31 décembre chez vous?
Moi, en tant que boucher, c'est mieux qu'on mange de la viande à y être. Bon petit filet de bœuf rossini avec le foie gras, le petit pain d'épices, dessous en toast, très simple. Voilà. Madame fait la mise en place et nous on cuisine. Voilà, Noël en famille et le jour de l'an entre amis.
Après, bon, il y a le gibassier. C'est une brioche typiquement provençale à base de fleurs d'oranger. Et il y a les pompes à l'huile aussi, à l'huile d'olive de notre région. Alors la tradition veut que ce ne soit jamais coupé au couteau, toujours à la main. C'est ancestral, hein. Commencer l'année comme il faut.
Et oui, il faut les rompre. C'est bien quelques pompes pour finir l'année.
J'allais dire, c'est quoi les pompes?
Les pompes, vous ne connaissez pas? C'est non. Comme une brioche, c'est un gâteau levé. C'est vraiment un des 13 desserts de Provence, ah, ça.
J'ai appris
la pompe à l'huile, ah, c'est magnifique, ça, avec de l'huile d'olive, effectivement.
Ouais, c'est pas dans le moteur de la voiture.
On ne la coupe pas au couteau, mais on la rompt avec les mains et on se la partage comme ça. Les coquillages, évidemment, ça vaut le coup de se faire plaisir avec des belles Saint-Jacques aussi.
Hein. Oui, je pense que c'est un produit d'exception. Et c'est vrai que c'est... En fait, quand la Saint-Jacques, c'est pas si onéreux que ça, parce qu'avec un kilo de Saint-Jacques, on fait quand même une belle portion par personne, et on arrive à les trouver sur les étals, même en ce moment, entre 7 et 8 euros le
kilo. Oui, toujours, oui, voilà.
Donc, on peut se faire plaisir.
Parce qu'à Paris, c'est toujours le double, de toute façon, pour les prix, c'est pas compliqué. Alors, on va s'envoler, justement. Préparez vos valises. Direction la Polynésie française. On va vous mettre au parfum de la vanille. Marion Sauveur est allée là-bas pour nous. C'est dingue, non? On revient juste après.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. 11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Petit coup de soleil avant le réveillon du 31, on vous emmène découvrir une fille des îles née d'une belle orchidée, c'est la vanille. Et en cuisine et en pâtisserie, ce qui nous intéresse dans la vanille, c'est la gousse. Hein, nous sommes d'accord, Yves Candebord?
Oui, totalement. C'est vrai que c'est un des produits phares qui nous permet de nous exprimer, d'amener beaucoup, je dirais, de gaieté à nos plats.
Et alors, on va vous donner des idées de recettes, justement, parce que vous verrez que la vanille marche aussi bien côté salé que côté sucré. Mais avant, on va faire un petit peu de géographie avec vous, Olivier Pouls. On va dire, allez, qu'il y a deux grandes zones de culture pour la vanille, parce qu'elle aime la chaleur et l'humidité. Quoi,
ben hein. Voilà, donc la vanille Bourbon dans l'océan Indien, c'est Madagascar, c'est les Comores, et puis, bien sûr, l'île de la Réunion, où on peut en trouver.
Ah oui.
Également, c'est une vanille assez ronde, assez odorante. Et puis, la vanille de Tahiti, évidemment. L'une des très belles vanilles aussi, aux senteurs plus acidulées, une vanille très grasse et qu'on retrouve plantée en tout cas dans l'archipel de la Polynésie française, de Bora Bora jusqu'à Tahiti, ça fait rêver. Et j'aurais bien voulu être envoyé là-bas comme reporter.
Oui, c'est vrai, mais ce sera Marion Sauveur, vous allez entendre tout à l'heure. Mais elle est allée pour la bonne cause, vous entendrez. Alors, on a découvert la vanille au XVIe siècle, mais c'est à partir du XIXe siècle qu'on s'est mis à la cultiver, Yves Candebord.
Oui, tout à fait, les premières traces, c'est les Mexicains au XVIe. Et alors, l'histoire dit que c'est un esclave à la Réunion qui a mis en place, qui a compris le procédé un peu de fécondation de la vanille. Donc c'est vrai que la vanille de la Réunion est une vanille qui est très particulière et qui est une vanille qui est très goûteuse et très, très grasse aussi.
On peut le citer, tiens, il s'appelait Edmond Albius.
Oui, Edmond Albius.
Edmond Albius, c'est lui qui nous
Edmond.
A permis de découvrir la vanille en culture. Alors il ne suffit pas de l'accueillir, la vanille, il y a un travail d'affinage. Marion Sauveur a rencontré Vaiana sur l'île Taha, en Polynésie française. Quelque chose me dit qu'il y avait un petit voyage de noces dans le coin, je ne sais pas.
Ah donc elle travaille pendant ces voyages de noces.
C'est ça, c'est beau, ça, voilà. C'est la passion du métier, ça s'appelle. Direction le lagon pour aller sentir la vanille.
Alors, nous sommes actuellement dans la fameuse plantation de vanille traditionnelle, la Tahitensis, la vanille de Tahiti. La seule variété de vanille, d'ailleurs, qui existe en Polynésie.
Et qui est très grasse.
Exactement. Les gousses, elles sont toutes vertes. Elles se présentent souvent sous forme de grappes.
Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Par contre, dont elles n'ont pas toutes la même longueur. C'est le pédoncule de la fleur qui devient le bâton de vanille. Donc, plus la gousse, elle se forme, plus la fleur se décompose petit à petit. Donc, moins de fleurs vous en pollinisez, plus la gousse, elle sera longue.
Et quand on ne verra plus cette fleur se décomposer, on pourra cueillir la gousse.
C'est ça. Donc 8 à 9 mois plus tard, on les récolte vertes matures. C'est par rapport aux oiseaux. Les oiseaux, en fait, sont là pour les piquer.
Ah, ce sont des coquins, ils savent ce qui est bon. Hein. Ouais. Donc on les récolte vertes et on les laisse mûrir.
Elles brunissent une par une. Alors ça peut s'étaler sur 15 jours. Dans un premier temps, elles seront triées. Par la suite, déposées dans des carrés de tissu et exposées au soleil.
Il fait beau aujourd'hui, donc on les fait sécher. Hein.
Alors, c'est sur les séchoirs.
Et là, on l'étale bien, cette vanille.
Exactement. Donc, on la répartit bien sur le carré de tissu pendant quasiment 2 à 3 heures pour sécher et pour chauffer. Par la suite, elles vont transpirer. Et plus, justement, elles transpirent, plus elles se déshydratent, plus l'arôme se diffuse. Celles qui ont commencé à perdre de leur humidité, elles se
rident. Là, on voit qu'elles sont ridées.
Elles sont quasiment prêtes. Par la suite, elles seront massées une par une pour redresser la gousse, pour répartir les grains dans toute la gousse et masser surtout pour évacuer le reste de l'humidité par les deux bouts.
Et on sent hein, les odeurs de vanille. Hein.
Malheureusement, on ne peut pas l'enregistrer.
Merci Marion Sauveur. Quelle chance. Chaque gousse, c'est une par une. J'aurais voulu être gousse de vanille, moi, franchement.
Oui, c'est vrai.
Ça fait
vrai,
rêver, ça, quand même.
Ça dépend, parce que là, vous rêvez d'être gousse de vanille en ce moment.
Oui.
Mais est-ce que vous savez, quand on utilise la vanille, que ce soit en pâtisserie ou en cuisine, on la fend en deux.
Ah, et là, j'aimerais moins, là. Oui, c'est
mais
moins agréable.
C'est important de le rappeler. Systématiquement, quand on travaille de la vanille.
Faut la gratter.
Voilà, faut la couper en deux. Et après, avec une pointe de couteau, gratter les grains.
Et alors là, on a ces grains de vanille qui sont un petit peu humides,
voilà,
même
voilà,
encore.
C'est ça qu'on utilise après quand on fait une crème
et
anglaise.
Et on ne jette pas après ce qu'il reste.
Voilà, alors ça, au départ, les grains, on l'utilise pour faire une crème anglaise ou alors faire des glaces vanille, des choses classiques. Et Olivier a complètement raison. Cette gousse, en fin de compte, où les grains ont été grattés, il faut la faire sécher. Vous la mettez au four à 100 degrés pendant 25-30 minutes. Elle va sécher. Et après, vous pouvez la mixer.
On en fait une poudre.
Voilà, on en fait une poudre.
C'est ça. C'est ce qu'utilisent d'ailleurs les industriels pour donner la coloration et l'arôme vanille aux glaces. Voilà. Hein, c'est ça qu'ils utilisent, c'est pas voilà. L'intérieur. Hein.
Totalement. Et là, par contre, donc à la maison, quand vous avez fait ça, cette poudre, vous pouvez l'utiliser soit pour vous amuser peut-être à paner aussi un poisson. C'est très intéressant de prendre, par exemple, un filet de cabillaud, de le paner avec de la chapelure. Et dans la chapelure, vous intégrez une cuillère à café de vanille.
Ah, c'est bien, ça.
Et vous allez avoir un petit poisson pané avec ce petit goûté de vanillé qui est
bon.
Très agréable.
Et oui. Avec la blanquette, ça marche aussi. Une blanquette de veau à la vanille. Hein. On
peut, c'est merveilleux.
Dans la crème, mettre un petit peu de vanille comme ça. Olivier Pouls.
Sinon, cette poudre, vous pouvez aussi la mettre dans de l'huile, une huile d'olive ou une huile neutre. Elle va infuser, vous aurez une huile parfumé à la vanille pour la cuisson des poissons, des Saint-Jacques, un carpaccio de Saint-Jacques avec une huile à la vanille ou même des tomates en été, c'est magnifique.
C'est un bel accord, ça aussi, vous avez raison.
Et puis c'est le moment peut-être de rendre un petit hommage à un grand cuisinier disparu qui a fait un plat référence, le homard à la vanille d'Alain Sandérans, qui en a fait un des grands classiques de la gastronomie française.
Absolument. Et c'est vrai que ça marche aussi bien en sucré, bien entendu, la vanille. C'est la période des fruits exotiques, l'ananas, la mangue. On peut s'amuser à faire un ananas rôti avec de la vanille tout autour. Ça marche bien comme dessert express aussi.
Oui, complètement. Hein. Ça a carrément pratiquement piqué un ananas avec ses bâtons de vanille. C'est remarquable de le rôtir au four à basse température. Et c'est vrai qu'on a un arôme. Voilà. Si je dirais, c'est pareil, c'est deux produits qui viennent un peu, je dirais, des tropiques. Et donc,
ils ont un truc à se dire. La pavlova. Vous aimez la pavlova, messieurs, dames, dans le public? Ah, il y en a qui aiment. Madame est mitigée sur la pavlova. C'est une espèce de grosse meringue dans laquelle on va mettre une chantilly. Une chantilly bien vanillée que vous allez utiliser pour recouvrir cette meringue. Et là, on peut encore y aller avec des fruits exotiques, du kiwi, de la grenade, des petits dés de mangue. Et ça vous fait un dessert express qui peut même remplacer la bûche. Hein. On vient de passer. C'est Noël, mais on peut encore continuer avec ce genre de dessert. Olivier Pouls.
Dessert créé pour une célèbre ballerine russe, la pavlova. Mais dessert créé, alors ils se battent. Hein. On ne sait pas si c'est en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
Est-ce que le vin et la vanille se marient bien, Olivier Pouls?
Alors assez bien, notamment sur le vin blanc. Parce que dans un certain nombre de vins blancs, notamment les vins qui sont élevés en fût de chêne, vous avez des arômes un peu vanillés. Le fût de chêne apporte au vin en général une note un petit peu vanillée. Et donc c'est vrai que si vous jouez ton sur ton, avec notamment des jolis vins de Bourgogne qui, lorsqu'ils vieillissent, développe encore plus ces arômes de vanille. Vous pouvez avoir des associations intéressantes.
Allez, on passe de la vanille au chocolat ce matin. Vous serez nombreux à offrir des chocolats pour le 31. Truffes, mendiants et ganaches, on vous dit comment les choisir et même comment les faire. A tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Bienvenue, nous sommes en public au studio Merlin à Europe 1. Merci de nous retrouver si vous venez de vous brancher sur Europe 1 en voiture ou à la maison. Avant de parler truffes et ganaches de chocolat pour le réveillon, nous accueillons Marion Sauveur et son journal de la cuisine.
Bonjour à tous.
Bonjour Marion. Alors, quelles sont les infos qui ont marqué la planète cuisine cette année? On rembobine 2019 pour votre journal de la cuisine, Marion. Alors 2019, c'est l'année du chef Mauro Colagreco.
Oui, le chef du Mirazur à Menton a été désigné meilleur chef du monde par ses pairs. Celui qui signe notamment un cochon de lait préparé comme en Argentine avec une sauce à la prune a aussi obtenu 3 étoiles au guide Michelin. Et autre chef à obtenir la récompense suprême du guide rouge, c'est Laurent Petit du Clos d'Essence à Annecy.
Mais oui, deux grands artistes. Et côté pâtisserie, c'est Jessica Prealpato qui a marqué 2019.
Et oui, une femme, la chef du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée a été élue meilleure chef pâtissière du monde. Elle travaille les fruits qu'elle sublime au vinaigre et des desserts très très peu sucrés. Le pâtissier le plus en vogue de l'année reste encore Cédric Grolet. Il a ouvert sa propre boulangerie il y a un mois à Paris. Il faut toujours faire près d'une heure de queue pour goûter sa fleur.
Rien que ça. Et voilà, ça c'est la puissance, le délire des réseaux sociaux. Une autre femme a marqué le monde de la cuisine cette année, Marion.
Et oui, une autre femme, ça fait du bien. C'est Pascaline Lepelletier. Elle a obtenu le titre de meilleure sommelière de France avant d'être désignée personnalité de l'année par la revue du vin de France.
Grande femme sommelière.
On passe à votre cerise sur le gâteau maintenant. Et cette semaine, vous avez repéré des cocktails d'une nouvelle forme pour égayer le réveillon, Marion.
Et oui, ce sont des cocktails à manger. Ça s'appelle les Glotters. C'est lancé par des Toulousains. Ce sont en fait des bouchées sphériques qui sont gélifiées. C'est la même chose que ce que vous pourriez réaliser à la maison ou boire tout simplement dans un bar. C'est avec de l'alcool, avec les mêmes ingrédients que ceux des barman. C'est sans colorant, sans conservateur et avec un gélifiant naturel, l'agar agar.
C'est des gelées, quoi, en fait. Ça se mange comment,
ça ? Exactement. Alors, ça se gobe, par exemple, en le plaçant sur votre main. Alors, certains l'associent aussi à du foie gras à la place du chutney, pourquoi pas.
Ah, pourquoi pas ?
Et d'autres le proposent comme un trou normand. C'est une idée pour le réveillon du 31.
Et ça, à quel goût ? Tiens, on l'a donné à nos amis du public ici au Merlin. Et Olivier Poul, c'est en train de le gober.
Alors, ça dépend de ce que vous avez choisi comme saveur. Hein. Mojito, piña colada, Sex on the Beach, il y en a 6. C'est assez sucré, pas très alcoolisé, mais ça a un goût de cocktail. Hein.
Combien ça coûte ?
C'est 10 euros la boîte de 8.
Vu la tête d'Olivier.
Non, non, pas convaincu.
Franchement, c'est très bizarre parce que c'est une texture.
C'est de la gelée, quoi.
C'est tout mou, c'est
il y a une dame dans le public, elle en est à sa troisième pina colada. Ça vous plaît alors, visiblement, hein, avec modération tout de même. 10 euros la boîte de 8. Merci Marion Sauveur.
Avec grand plaisir.
Alors en cadeau ou au coin du sapin, en cette fin d'année, nous achetons plus de 33 000 tonnes de chocolat. On parle tablette et ganache ce matin en compagnie d'un orfèvre du cacao, un véritable artisan chocolatier. C'est Jacques Génin. Bonjour Jacques Génin.
Bonjour.
Vous avez deux boutiques dans Paris, une dans le Marais, l'autre dans le 6e. Alors les Parisiens connaissent votre travail d'artisan, mais certains de nos auditeurs vont vous découvrir. Et ce qu'il faut dire, c'est que vous n'étiez pas destiné au métier de chocolatier au départ.
Pas du tout.
Vous venez d'où ?
Des Vosges.
Ah, des Vosges.
Vous êtes content, là.
Je suis content, oui. Je suis pas tout seul, je me sens moins seul. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans les Vosges ?
Oh, dans les Vosges, pas grand-chose. En fait, je commence dans les abattoirs et puis après, bon...
Voilà, les abattoirs au chocolat. C'est ça qui est beau dans votre parcours. C'est quand même d'un métier difficile, dur et un petit peu cruel, il faut bien le dire. Vous êtes passé à un métier d'une sensibilité, d'une précision absolue. Qu'est-ce qui vous attire tant dans le chocolat, Jacques Génin ?
D'abord, ce qui m'a attiré au départ, c'est d'abord la naissance de ma fille et je voulais qu'elle ait les plus beaux anniversaires qui soient.
Ça, c'est beau.
C'est pour ça que je me suis lancé dans le monde du chocolat.
Un beau prétexte. Et pour le 31, nos auditeurs vont offrir des mendiants, des ganaches, des truffes. Qu'est-ce qui plaît le plus en ce moment en chocolat ? Qu'est-ce qui a la cote, vous diriez ?
Il n'y a pas un chocolat particulier qui a la cote. La truffe reste toujours le numéro 1. Quoi qu'il arrive.
Une ganache avec du cacao autour.
Avec du cacao autour. C'est simple, mais... Tu comprends ce que tu manges et voilà, il n'y a rien besoin de plus.
Et vos ganaches sont incroyables parce qu'il y a un joli chocolat de couverture qui donne le croustillant. Hein. Le chocolat de couverture, on va dire que c'est la matière première que vous achetez sous forme de tablette.
De tablette. Hein, en fait, c'est la tablette pour tout le monde. Et c'est ce qui nous sert à enrober un intérieur.
Et la ganache à l'intérieur, justement, vous faites des parfums avec du gingembre, avec de la menthe. Vous amusez vraiment à parfumer vos ganaches.
On est sur un produit quand même, on est sur un corps gras. À partir du moment où ce corps gras, on peut l'adapter, comme en cuisine, à toutes sortes de saveurs. Il n'y a aucun problème, rien ne nous arrête.
Vous êtes réputé pour vos orangettes et vos gingembrettes, Jacques Génin. Vous allez confier un autre fruit cet hiver ?
Je pense à retravailler l'angélique, surtout. Parce que je trouve qu'il n'y en a vraiment plus des...
La bergamote et le pamplemousse, ça marche aussi hein, en confiserie comme ça. Hein.
Mais ça marche très très bien. Moi, j'utilise beaucoup la bergamote. Et surtout, en ce moment, les agrumes. Parce que c'est la saison des agrumes, quoi.
Combien de bains de sucre, par exemple, pour une orange ou un pamplemousse, si on veut les confire ?
5.
5 bains de sucre ?
5, avec des baumets différents. En fait, c'est des densités de sucre par rapport à l'eau, pour pouvoir confire un produit.
Ah, c'est ça, c'est la précision. Ouais.
Impossible à refaire chez soi.
Non, c'est très dur. C'est très, très
dur. C'est pour ça qu'on va chez un bon artisan chocolatier. Il y en a plein en province, on peut en signaler quelques-uns, justement. Il y a Thierry Mulopt à Colmar, en Alsace, Vincent Guerlet du côté de Nantes. Il y a un autre... Oui, Yves Candebord.
À Arbois, il y a Édouard Hersinger aussi, qui est un chocolatier assez extraordinaire, qui travaille énormément les saisons. Donc, il a vraiment quatre cartes de chocolat totalement différentes selon la saison. Et c'est vrai que c'est assez, pour moi, cuisinier, c'est très important.
Daniel Mercier à Baugy aussi, dans le Cher.
On a un avantage en France, c'est qu'on est vraiment gâté, quoi. On a une somme considérable d'artisans.
Alors, comment réussir les mendiants et les truffes à la maison? Comment bien choisir ces chocolats? Ne bougez pas, Jacques Génin va vous dire comment faire, parce que c'est pas compliqué, les truffes. Et les mendiants, encore moins. A tout de suite sur Europe 1.
11h30, la table des bons vivants. On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Installez-vous avec un bon chocolat chaud maison si vous nous rejoignez. Nous sommes en public au studio Merlin Europe 1. Nous sommes à la table des bons vivants en compagnie de l'artisan chocolatier Jacques Génin.
Alors Laurent, pas que chocolatier, parce que je viens de manger à l'instant, moi, un bonbon. C'est un caramel mou. Je crois que c'est mangue passion.
Ah, c'est une tuerie.
C'est
ça.
Une tuerie.
C'est exceptionnel.
C'est
et moi, j'ai une ganache. Écoutez le croquant de la ganache, tiens. Une ganache à la menthe. Ouais. Hein, c'est ça, elle est parfumée à la menthe, votre ganache.
Oui. On est loin en fait des feuilles de menthe.
On est loin de l'after eight. Hein.
Ah bah oui, moi j'appelle ça l'after chef.
Je parlais de chocolat chaud il y a quelques secondes. C'est vraiment la période pour faire un chocolat chaud à la maison. Il y a plusieurs écoles. Il y a l'eau ou le lait, le chocolat en poudre ou la tablette, des épices ou pas d'épices. Qu'est-ce que vous conseillez,
alors,
Jacques Génin?
Je défends deux écoles, à l'eau et au lait. À la poudre, moi je trouve qu'à un moment, la poudre de cacao, il faut savoir comment c'est fait. La poudre de cacao, qu'est-ce que c'est? C'est de la masse pure qui est pressée, donc sous haute pression. On extrait le beurre de cacao et il nous reste un tourteau. Ce tourteau-là va être pulvérisé et on va en faire de la poudre de cacao. Oui, mais donc, en fait, il faut savoir que ce tourteau-là ne contient même plus 20% de beurre de cacao.
On est loin de la tablette.
Donc on est loin de la tablette.
Donc on prend une bonne tablette qu'on va acheter chez un artisan chocolatier.
Une bonne tablette, ça va très bien. 300 grammes de lait que tu fais bouillir, tu mets 80 grammes de chocolat à l'intérieur, tu refais bouillir et tu bois un chocolat chaud qui a le goût du chocolat, qui est merveilleux, qui n'a pas besoin de rajouter de sucre ni de crème. La réduction se fait très bien elle-même.
Le goût corsé du cacao.
Le goût corsé du cacao.
Parlons de ça, tiens, justement. De,
mais l'authentique, c'est quand même avec de l'eau, parce que vous disiez...
L'authentique, je préfère avec de l'eau.
Voilà, il faut en parler de celui-là.
Je préfère avec de l'eau. Avec de l'eau, 150 grammes d'eau que vous faites bouillir, et vous mettrez 90 grammes de chocolat. Vous refaites bouillir, vous dégustez ça, c'est juste magnifique.
C'est plus digeste surtout.
Moi, je préfère celui-ci. Mais après, tu sais, tu as tous les goûts d'enfance, tu as tout ça, et tu ne peux pas aller contre.
Alors, le bonbon de chocolat, lui, n'arrive qu'au XVIIIe siècle. C'était d'abord un médicament, Olivier Pouls, le bonbon
chocolat. Médicament. De toutes les manières, c'est la maison de Beauvais-Gallet qui, avant tout, son pharmacien. Il faut savoir que le chocolat passe en 1804 à la maison Frit, de l'état solide à l'état...
C'est
de l'état liquide à l'état solide.
Les premiers bonbons au chocolat croqués.
Les premiers bonbons au chocolat, c'est la maison de Beauvais-Gallet. Ouais. Et s'en servait, de toutes les manières, pour soigner le salep, en fait, toutes ces maladies-là. Et après, il commence, effectivement, à créer le bonbon de chocolat, mais bien plus tard.
C'est vrai qu'il y a plein de bonnes choses dans le cacao. Alors, les truffes font partie des cadeaux de fin d'année, cher Jacques Génin. Si on veut faire des truffes à la maison, c'est pas compliqué.
C'est vraiment
on fait une petite ganache.
Une petite ganache. Tu prends 230 grammes de crème liquide fleurette que tu fais bouillir. 240 grammes de chocolat de couverture.
C'est précis, hein ?
C'est précis. Tu fais bouillir ta crème, tu la verses sur ton chocolat.
Et le chocolat couverture avec un pourcentage de cacao assez élevé ?
Voilà, moi je fais attention au pourcentage de cacao. Parce que quand on parle de pourcentage de cacao, ça veut dire quoi ? De masse de cacao ou de beurre de cacao ? Ce qui est préférable, c'est de prendre une plaque de chocolat que tu as l'habitude, effectivement, de manger chez un chocolatier où tu retrouves une saveur, où tu retrouves un craquant, où tu retrouves quelque chose. Et tu fais cette ganache, tes truffes avec ça.
Donc on fait fondre le chocolat dans la crème.
Dans la crème.
On laisse refroidir.
Tu laisses refroidir.
Dans le réfrigérateur.
Dans le réfrigérateur.
Pour que ça fige, avec le gras du beurre de cacao.
Voilà. Et, une poche à douille.
Une poche à douille.
Tu fais des petites boules. Le chocolat.
Ah oui, même pas à la cuillère, on peut
mais,
pas aller
à la, si, tu peux à la
cuillère
aussi.
À la maison. Oui,
c'est vrai,
voilà.
C'est vrai.
Bah oui, on a la maison, Jacques Génin, on n'a pas de poche à douille comme ça partout. À la cuillère.
À la cuillère.
Mais
oui. Mais tu, en fait, tu roules ta cuillère mais à l'intérieur et tu trempes ça dans le cacao.
Et ben voilà, et on la roule dans le cacao. On peut les rouler aussi dans du thé matcha, par exemple, ou de la noix de coco pour s'amuser
après,
à changer les arômes.
Ce que tu veux.
Hein,
ce que tu veux.
Autre douceur de saison, c'est le mendiant, un chocolat garni de fruits secs et séchés. Alors, personnellement, j'adore ça, le mendiant. Pareil, c'est quoi? C'est une tablette de chocolat qu'on va faire fondre, tout simplement.
C'est une tablette de chocolat que tu dois faire fondre, mais pas au-dessus de 30 degrés. Sinon, elle cristallise plus. Et puis, tu prends ta cuillère, tu fais des petits ronds, et puis tu mets ce que tu veux dessus. Tu peux mettre des macadamia, tu peux mettre des oranges confits, tu peux mettre tout ce que tu
veux. De la pistache, de la figue, de l'abricot. Ça vous plaît, les mendiants, Yves Candeborn?
Moi, j'adore ça, mais vous savez que j'aime le chocolat aussi. On le retrouve en salé aussi, Laurent.
Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup voyagé dans le monde, le chocolat.
Sûr,
et au
sûr.
Mexique, on fait un poulet au chocolat.
Voilà, ils font une dinde au chocolat. J'ai eu la chance de voyager là-bas et de le déguster. Et c'est vrai que c'est un mariage vraiment très particulier, mais où il y a un très bel équilibre. Et après, nous aussi, le chocolat, on l'utilise régulièrement avec le gibier. Un lièvre à la royale, pour terminer, une petite sauce de lièvre à la royale, y faire fondre un morceau de cacao dedans,
un coco,
ça amène, voilà, ça amène une vraie subtilité.
Dans un bourguignon, pour apporter de la brillance et de la rondeur, voilà, et une petite note d'amertume, c'est toujours bien de mettre un bon carré de chocolat. Pour finir en beauté, tiens, puisqu'on vous a sous la main, Jacques Génin, une recette de mousse au chocolat simple et bluffante qu'on pourrait servir comme ça sur le buffet du réveillon pour le 31.
Tu prends 250 g de chocolat que tu casses en petits morceaux, 150 g de crème liquide fleurette que tu fais bouillir, tu le verses dessus, tu montes une petite ganache. À part, tu vas monter 350 g de crème liquide fleurette en chantilly. Tu mélanges les deux compositions ensemble. Tu sers ça dans des petits ramequins.
Ah oui, sans œufs et sans
sucre.
Sans
œufs, sans sucre, sans rien.
Pas d'œufs, pas de sucre.
C'est
une bonne idée,
juste
ça.
Magique.
On prend, messieurs, dames. Hein. Ah oui, on prend. Elle a pris des notes, la dame. Elle a tout noté.
Mais je prends mon
sucre. Et vous retrouverez les références et les quantités sur europe1.fr. Un dernier mot, cher Olivier Pouls. Le vin et le chocolat ont des choses à se dire aussi. Hein.
Absolument. Et on a tendance à mettre des vins doux naturels sur le chocolat. Moi, j'ai pris une option un peu différente de prendre un vin sec, un vin du sud de la vallée du Rhône, avec une majorité de grenache. Et je trouve que là, on a quelque chose qui répond très, très bien au chocolat tout en gardant de la fraîcheur. C'est un vin du Ventoux, la Tuilière. Et voilà, je trouve que ça ne dénature pas le chocolat et ça ne le
sucre
pas.
C'est vrai que ça marche.
Oui, ça
parce,
marche
que tu
très
es
bien.
Parce que tu es sur du fruit rouge.
Bien sûr, c'est un vin jeune, encore sur des notes de fruits rouges.
Le fruit rouge répond au chocolat. Merci Jacques Génin d'être passé
Merci.
À la table des bons vivants. On vous retrouve dans vos boutiques parisiennes et on se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Petit-Renaud et Nicolas Caro, le monsieur littérature d'Europe 1, sera aussi avec nous. Avant de faire ripaille le 31, il va nous parler de la place des banquets dans la littérature. À tout de suite pour des nourritures terrestres et spirituelles.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Merci de nous écouter. Bienvenue hein, si vous vous mettez à table avec nous pour la première fois. C'est une émission spéciale Réveillon du 31. Clovis Cornillac, le comédien bon vivant, nous rejoint dans quelques instants. Nous sommes au studio Merlin à Europe 1. Avant de retrouver Jean-Luc Petit-Renaud qui porte un toast à une gourmandise que vous pourrez refaire pour le réveillon, eh bien on va s'intéresser à la place de la table et de la gourmandise dans la littérature. Et pour cela, nous avons invité Nicolas Caro, le monsieur littérature d'Europe 1. Qui vient de nous rejoindre. Bonjour Nicolas.
Bonjour Laurent.
On vous retrouve tous les dimanches de 14h à 15h dans votre belle émission La Voix est libre.
C'est ça, merci.
Et c'est vrai que la littérature et la gourmandise ont des choses à se dire. Quel auteur pour vous symbolise la gourmandise en fait, si on devait en choisir qu'un?
C'était fastoche. Hein. Quand vous m'avez demandé ça, je me suis dit tout de suite Alexandre Dumas évidemment.
Bah oui.
C'est l'ogre Dumas. Et puis Dumas, c'est Porthos bien sûr. Il a mis tout ce caractère de bon vivant dans ce personnage génial de Porthos qui passe sa vie à manger et à boire avec beaucoup de plaisir à chaque fois. Et puis d'ailleurs, c'est Depardieu qui incarne Porthos à l'écran et c'est Depardieu qui incarne Dumas quand il y a un biopic sur Dumas.
C'est vrai.
Ça veut bien dire que Porthos, c'est Dumas et l'inverse aussi est vrai.
Dumas qui avait même écrit un dictionnaire hein, de la gastronomie, son dictionnaire
Exactement.
De la cuisine.
Mais c'était quelque chose de très important pour Dumas, la cuisine. Son grand-père maternel tenait une auberge et il avait même inventé une recette que je vais vous donner, une manière de rôtir. Ça s'appelait le poulet à la ficelle et à la broche à 3 étages. C'est-à-dire que vous mettez en haut une oie, en dessous 6 bécasses et encore en dessous une douzaine de cailles. Pourquoi Pourquoi ? Pour que le jus et la graisse coulent sur l'une, puis sur l'autre, et que tout ça s'enrichisse. C'est
la
magnifique.
La graisse nourrit l'autre. Eh bien, ça, c'est magnifique. Ça, c'est un beau millefeuille, Yves Courdebordes.
Moi, je veux bien que vous m'invitiez à votre table.
Ah oui, oui.
Bah, ils sont en librairie, parce que dans chacun de ces romans, on parle sans arrêt de manger, de grands repas, etc. Et son dictionnaire de la cuisine, il l'a écrit en fait à la toute fin de sa vie. Mais il a passé sa vie à voyager partout, dans des contrées très lointaines. Et donc, dans ce dictionnaire, il y a à peu près tout. Il y a de l'histoire de la cuisine, il y a des anecdotes, il y a des considérations. Il parle de ce qu'il a mangé, de la patte d'ours, du pied d'éléphant.
Mais c'est vrai qu'il avait goûté des trucs incroyables.
Alors, il n'aime pas trop le dauphin, il n'aime pas trop le kangourou non plus. Mais en revanche, il aime beaucoup la tortue.
Quels sont les romans d'Alexandre Dumas qui aiguisent votre appétit, en fait, dans lesquels on retrouve de belles tablées? Il y a les Trois Mousquetaires,
non? Bien sûr, il y a les Mousquetaires, mais il y a aussi Monte Cristo. Je peux vous lire juste l'extrait, vous souvenez, c'est au tout début du roman, quand Edmond Dantès partage un repas avec sa famille pour ses fiançailles. C'est pendant ce repas qu'il va être arrêté et envoyé au château d'If, ensuite Monte Cristo. Mais je vous lis l'extrait. Déjà couraient autour de la table les saucissons d'Arles à la chair brune et au fumet accentué, les langoustes à la cuirasse éblouissante, les praires à la coquille rosée, les oursins qui semblent des châtaignes entourées de leur enveloppe piquante, les clovis qui ont la prétention de remplacer avec supériorité pour les gourmets du midi les huîtres du nord, enfin toutes ces hors-d'œuvre délicats que la vague roule sur sa rive sablonneuse et que les pêcheurs reconnaissants désignent sous le nom générique de fruits de mer.
Bon, c'est beau, c'est bon, merci. Ouais. Merci Nicolas Caro. Moi, je vais retenir votre millefeuille de dinde, de bécasse et de caille qu'on va essayer de refaire.
À trois étages.
Au réveillon. Merci d'être venu, Nicolas Caro, nous nourrir un peu spirituellement avec ces beaux extraits. On vous retrouve demain à 14h dans La Voix est libre sur Europe 1. Merci Nicolas Caro.
Ça m'a mis en grand appétit.
J-3 avant 2020, alors vous pouvez compter sur l'ami Jean-Luc Petit-Renaud pour les fêtes, vous vous doutez bien, surtout quand il vous accueille avec un amuse-bouche dont il a le secret. Écoutez bien, c'est une première dans cette émission, il va nous faire une recette, Jean-Luc. Et pour mettre ses invités en appétit, il a une recette imparable. Bonjour, bonjour, l'ami Jean-Luc.
Ah, bien le bonjour, les jolis amis. Je vois que vous avez gardé vos branches de sapin dans les cheveux. Vous êtes d'ailleurs très jolis. Bienvenue chez moi aujourd'hui. J'avais envie de vous inviter pour vous faire goûter des petits toasts que je vais préparer pour la soirée du 31. Alors, c'est très simple. Vous allez voir, un joli pain de campagne. On découpe des tranches dans le sens de la longueur que l'on va mettre à toaster. Très légèrement, attention de ne pas trop les griller. Il faut qu'elles restent un peu moelleuses. Ensuite, on va mettre par-dessus un petit filet d'huile d'olive, par-dessus un beurre de truffe, un beurre ramolli et des petites égratignures de truffe noire, comme ça que l'on va mélanger. Donc ce beurre, on le tartine avec un couteau à bout rond, comme ça, soyez généreux, hein, attention, c'est les fêtes des fins d'année, soyez généreux. Par-dessus, vous rajoutez quelques petites rondelles de truffe et puis vous mettez une autre tranche de pain avec un autre beurre de truffe par-dessus. Vous fermez comme une boîte, tac, hop là. Et là, vous allez mettre cette préparation sous un papier film et que vous allez serrer énormément, mais comme un pull trop court que vous mettriez sur un gros monsieur. Et cette préparation, vous la laissez au réfrigérateur pendant une journée et demie, voire deux jours. Vous allez enlever le jour J, le 31 au soir, le papier cellophane. Vous allez chauffer votre four et très légèrement, vous allez réchauffer ce cadeau du ciel. Ça, c'est une pure, pure merveille.
Oh oui, c'est beau, ça fait envie, ça. On y était.
Il y a même encore une autre option, c'est d'utiliser un appareil à croque-monsieur, vous savez, les appareils
aussi,
type à gaufre, et vous le passez là-dedans, c'est génial.
Ça, c'est une recette inspirée de Michel Rostand, ça me disait Jean-Luc Petit-Renaud.
Oui, c'est un des grands classiques de Michel Rostand à l'époque de la truffe, c'est son fameux croque-monsieur à la truffe. Et pour l'avoir goûté,
ça marche.
Vous assurez que c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls, alors ?
Le truc vraiment fantastique, c'est un vieux champagne.
Un vieux champagne.
Si vous avez un vieux champagne qui prend lui-même des notes un peu truffées, là, vous êtes au paradis.
Allez, ne bougez pas. Dans un instant, nous accueillons un bon vivant qui ne plaisante pas avec la bonne chair. Il nous a marqué dans l'excellente série Chef sur France 2. Clovis Cornillac sera notre invité. A tout de suite sur Europe 1, au studio Merlin.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Nous revoici en public au studio Merlin. Midi n'a pas encore sonné, mais c'est l'heure de retrouver notre invité bon vivant Originaire de Lyon, notre invité a été bien élevé au tablier de sapeur et au saucisson brioché. Enfant de la balle, il a joué très tôt pour le théâtre avec Peter Brook, rien que ça. Carnaval, Brise de Nice, Les Brigades du Tigre, entre autres, il enchaîne les rôles au cinéma et la télévision. Fine gueule, il aime le vin et la cuisine comme il aime retrouver un vieux copain. C'est Clovis Cornillac, notre invité. Bonjour Clovis.
Bonjour, bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver. Alors ici, on vous a adoré dans la série Chef sur France 2. Vous jouiez...
Oui, j'imagine pourquoi.
Vous jouiez un chef cuisinier solitaire et un peu obsessionnel. Mais la cuisine, elle a une place importante dans votre vie, hein, tout de même. Vous avez même eu un restaurant à Lyon.
Au départ, le restaurant, je l'avais ouvert pour le vin. Donc c'est rigolo, puisque c'est d'abord le vin qui m'a donné envie d'ouvrir un restaurant. C'était une aventure, une très belle aventure, très chouette. Et après, c'est un restaurant, donc on sait que les restaurants... c'est compliqué si tu n'y es pas tout le temps et tout ça. C'était, voilà. Mais c'était, ceux qui s'en occupaient étaient formidables. Donc, j'ai rien à regretter. C'était une très belle aventure. Mais,
très belle expérience.
Ouais.
Alors, vous êtes à l'affiche de Veto, une belle comédie familiale que j'ai vue qui sort la semaine prochaine au cinéma. Vous jouez le rôle de Nico, qui est un vétérinaire du Morvan, qui va devoir faire avec une nouvelle associée juste sortie de l'école vétérinaire. Une belle comédie familiale champêtre. C'était intéressant pour vous à jouer ce vétérinaire. Là, on sent que vous avez pris du plaisir avec une belle distribution. Michel Jonas aussi. Hein.
Oui, c'est, alors, au-delà de la distribution et tout ça, où il y a cette jeune actrice Noémie Schmidt aussi qui est révélée aussi à travers ce film. Voilà, Julie Manoukian, son premier long métrage, et elle a réussi vraiment un tour de force à faire un film, comme vous dites, très populaire, à partager, on va dire, en famille et sans...
Ah oui, on peut y aller en famille, c'est ça qui est super.
Oui, ouais. Et en même temps, pas du tout édulcoré, c'est-à-dire que toutes les thématiques...
Le bien-être animal, on en parle, l'hostilité du monde rural, on en parle, envers le monde rural
ouais,
aussi.
La difficulté aussi aujourd'hui de la désertification et du fait qu'il n'y ait plus de vétérinaires de campagne, il y en a de moins en moins, de savoir que c'est des gens qui travaillent non-stop, 7 jours sur 7, nuit, jour, donc avoir une vie familiale, c'est compliqué. Ils n'ont plus ce statut de notable qu'on a pu connaître, enfin en tout cas ma génération,
ah oui,
j'imagine
que
vous n'êtes pas beaucoup plus jeune que
pareil.
Moi non plus. Donc, où c'était, voilà, c'était classe d'être le vétérinaire à la campagne. Aujourd'hui, c'est dans une voiture non-stop à dépanner des gens qui sont dans des situations compliquées aussi. Et donc d'arriver à traiter tous ces sujets-là, de manière très douce, très à hauteur d'homme, pas du tout, c'est un film qui n'est pas du tout prétentieux, qui a une sorte de douceur, et garder de la lumière et de la comédie avec quelque chose qui pourrait être tragique et terrible. Finalement, il y a comme ça un tour de force. Et le public, on l'a présenté à travers la France là, pendant un mois et demi. Et c'est vrai que le public est hyper réceptif au film. Donc c'est chouette.
On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs dans l'émission. Quel est votre goût de l'année 2019, Clovis Cornillac? Si on doit repenser à tout ce qu'on a mangé et bu en 2019, vous diriez quoi, vous?
Mais c'est toujours très compliqué parce que déjà, moi, dans la vie, j'ai du mal à hiérarchiser, par exemple, des souvenirs. Quel était votre meilleur moment? Quel était...
C'est dur. Hein.
J'ai du mal parce que je trouve que tout... Et notamment dans la cuisine, tout a du sens à partir du moment où les choses se succèdent. C'est aussi parce que peut-être tu as pris quelque chose d'un peu particulier avant un plat, tu vas te souvenir de ce plat-là comme avec une scène. On se souvient d'une scène dans un film en disant « Ah, cette scène, elle est géniale », mais elle est géniale parce que celle d'avant l'emmène en toute discrétion et que celle d'après permet de digérer. Donc je pense qu'il y a un peu une similitude, mais il y a une chose que je n'avais pas mangé depuis longtemps et comme j'y ai regoûté il n'y a pas très longtemps, c'était les riz de veau. Et les riz de veau se cuisinent de moins en moins. Et j'en ai mangé là, il y a deux mois et demi. Et j'ai pris un plaisir non fin à reconnecter avec le riz de veau.
Vive le riz de veau. Là, c'est la période de la truffe. Quelques petites lamelles de truffe sur un riz de veau, ça marche toujours, hein, Yves Candebord.
Un peu de vin jaune avec.
Et on est heureux. Le réveillon approche. Yves Candebord, dans quelques minutes, vous allez nous donner quelques idées pour passer le réveillon avec ses invités et non au fourneau, parce que ça, c'est important. Mais juste avant, on va faire un petit inventaire des ustensiles utiles pour le réveillon, parce que c'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'un couteau pour ouvrir les huîtres, d'une petite râpe pour faire des zestes. Donc on va commencer avec le couteau à huîtres. Tiens, Yves Candebord, ça c'est un indispensable, on est d'accord.
Alors, c'est un indispensable, il faut impérativement par contre acheter un couteau à huîtres avec un garde-corps.
Oui.
C'est primordial. On a des couteaux professionnels maintenant sans justement ce garde-corps. Et il faut impérativement le prendre parce que c'est vraiment une sécurité pour ouvrir les huîtres.
Pour pas ça, se blesser.
C'est totalement indispensable à la maison.
Mmh. Autre ustensile que j'aime beaucoup, ça ressemble à un fil à couper le beurre.
Alors, ça ressemble à un fil à couper le beurre. En fin de compte, c'est un fil à couper de beurre qui est monté sur
une armature.
Une armature. Ouais. Et on appelle ça une lyre. Ça ressemble à une lyre. Et c'est vrai que quand on coupe le foie gras, ça sert à couper le foie gras et le fromage. Alors, quand on coupe le foie gras, on va vous dire qu'il faut prendre un couteau, le tremper dans de l'eau chaude et après le couper. Tandis qu'avec ça, vous faites simplement un mouvement de haut en bas.
Un aller-retour.
Voilà, sur votre terrine de foie gras et vous avez les tranches nettes et précises.
Si vous
et ça, c'est toute l'année qu'on peut l'utiliser.
Ben oui, si vous avez raté le cadeau de Noël dernier, eh bien voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut offrir. Il y a le toqueur à œuf aussi, qui est très pratique voilà, pour ça, ouvrir c'est... nettement.
Parce qu'on connaît bien sûr le fameux ciseau pour ouvrir les œufs, mais qui a tendance systématiquement à couper un peu, à casser l'œuf. Donc le toqueur à œuf, vous mettez sur l'œuf, la petite boule, vous faites descendre une fois, voilà, maximum deux fois, vous avez.
Oui, voilà, une coupe nette et franche.
Très nette. Oui. Alors ça, soit ça, vous allez le pocher au bain-marie pour faire un petit œuf à la coque, ou sinon, vous le videz, vous faites une brouillade et vous le remettez
dedans. Et vous la remettez dedans et c'est des bords bien tranchés nets. Ouais.
C'est propre, c'est net et surtout, je dirais, c'est très professionnel.
Je voudrais avoir l'avis de Clovis Cornillac sur le toqueur à œuf. Ça, c'est la seule émission où on vous demandera ce genre de choses.
En tous les cas, ce qui est certain, c'est que les deux premiers objets, me semble, c'est des objets à utiliser impérativement. Alors que, pour le coup, le décaloteur, je ne sais pas, à œuf, ça c'est, je dirais, moi personnellement, je ne l'aurais pas dans une cuisine privée, à moins qu'on aime effectivement se servir de la coquille pour faire une présentation. Mais en soi, très sincèrement, quand tu prépares, tu veux te faire un truc, tu ne vas pas prendre ton...
Ah non, mais voilà. c'est pour présenter.
Autre objet, Yves Candebord, c'est le tranchelard. Voilà, c'est une grande lame un peu alvéolée sur les côtés, on va dire.
Alors, ce n'est pas un peu alvéolée, c'est totalement alvéolée. C'est ça. Et c'est une vraie utilité, donc bien sûr pour couper saumon fumé ou jambon. Et les alvéoles, donc, on a de l'air qui se met dedans. Et quand on va trancher notre tranche de saumon fumé ou de jambon, on va vraiment les détacher et c'est très délicat et ça nous permet d'avoir des tranches très fines.
Un objet que vous nous recommandez aussi, c'est la pince à désarrêter.
Hein. Alors, ça, c'est la pince à désarrêter. Alors, ça ressemble, c'est vrai, à une pince à épiler.
Très large, c'est des gros
très
poils.
Large, mais par contre, c'est très pratique justement pour enlever les arêtes des poissons. Alors, le petit astuce, c'est d'avoir un petit bol d'eau à côté de soi et de prendre l'arête, hop, de tremper dans l'eau, hop, comme ça l'arête tombe dans l'eau et on peut recommencer ainsi de suite.
Et vous avez un coup de cœur, alors ça c'est un coup de cœur.
Moi j'ai un coup de cœur.
C'est vrai, il faudrait presque tous avoir cet objet à la maison parce que c'est très pratique.
Déjà au départ, bon, c'est la microplane.
C'est une râpe.
C'est une râpe qui sert au départ à faire les zestes d'agrumes.
Très fin.
Mais très fin. Et surtout ça nous permet justement de vraiment les avoir très fins et de ne pas prendre un peu l'intérieur de l'agrume, le blanc qui est un peu plus amer. Après on peut la détourner en ce moment avec la truffe. C'est vrai que la truffe, on a tendance soit à lâcher au couteau ou la couper en rondelles. Et je peux vous assurer que la truffe à la microplane, ça vous fait des petites brins de truffe. Ça donne un arôme vraiment très subtil et c'est très agréable et très joli à voir.
Et le parmesan aussi, ça marche très bien.
Oui, ça fait de jolis flocons de parmesan, ça, cette râpe.
Et le dernier petit objet, allez, pour le dernier, juste le dernier.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
C'est une petite bouteille, c'est un petit flacon qu'on remplit avec une crème anglaise, qu'on va remplir avec une vinaigrette et on va se permettre après de faire des petits décors très sympas.
Ah, pour faire
dans les assiettes
décors,
très facilement.
Vous avez arrêté le trait de balsamique réduit quand même, rassurez-moi, dans le fond de l'assiette.
C'est pas bon du tout.
C'est fini ça. Il n'y a pas ça chez Candebord. Eh bien, merci Yves Candebord. On vous retrouve juste après avec trois recettes faciles à faire pour le 31. Ne bougez pas, nous sommes là avec Clovis Cornillac et si vous voulez faire du camp de bord pour le réveillon, eh bien ce sera juste après ça. A tout de suite.
Service, s'il vous plaît, on enlève un cabillaud, pousse d'épinards. Et une cuisse de volaille, s'il vous plaît.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Merci d'écouter la table des bons vivants. Nous sommes en public au studio Merlin, J-3 avant le réveillon du 31. Vanille, chocolat de fête, ça c'est fait. Après les plaisirs sucrés du début de l'émission, nous allons vous donner des idées de recettes pour passer votre réveillon avec vos invités et non pas au fourneau avec Yves Candebord. Clovis Cornillac est notre invité à l'affiche mercredi prochain de Veto, une belle comédie familiale qui se déroule dans le Morvan. Une région très photogénique, très cinématographique, hein, Clovis Cornillac, le Morvan.
Oui, absolument. Assez méconnue de la plupart des Français. Moi, c'est une région, évidemment, on la passe régulièrement, on la traverse. on s'y arrête peu et c'est bien dommage. C'est oui, très beau.
Vous êtes acteur et réalisateur, vous vous nourrissez de cinéma en permanence, hein, parce que vous réalisez de plus en plus. On a vu votre premier film, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui était une comédie, on peut dire presque romantique, hein, oui. Avec deux voisins comme ça. Je ne sais pas si vous avez vu, ça s'appelle Un peu beaucoup aveuglément, où c'est un voisin inventeur qui est collé à une voisine pianiste et leurs cloisons ne sont pas du tout étanches au niveau phonique et ils vont se découvrir comme ça à travers leurs appartements. C'était votre premier film, vous avez fait Belle et Sébastien aussi.
Oui, le 3.
Le 3, ouais. Et là vous êtes, vous venez de tourner un film dans les rues de Lyon aussi.
Ah oui, j'ai fait un film chez moi. Donc j'ai joué à domicile, c'était un rêve aussi de pouvoir filmer ma ville et tout ça. Et j'avais l'histoire qu'on avait écrite correspondait tout à fait au truc. Oui, c'est une comédie.
Magnifique, assez, c'est ça
C'est magnifique.
C'est magnifique.
Ouais.
Alors maintenant, on va passer à notre menu de réveillon. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire pour le 31, cher Clovis Cornillac?
Je sais pas bien. Je sais qu'on va se faire un petit truc à la maison entre camarades bienveillants, histoire de tourner la page comme il faut. Et c'est ma douce qui va, je pense, qui va envoyer du bois.
Eh bien, votre douce va peut-être récupérer quelques idées grâce à Yves Candebordes, qui nous a préparé un menu de réveillon sans le passer au fourneau. C'est bien ça, Yves, hein ?
Oui, parce que je pense que quand on reçoit des amis, surtout pour le 31, ben c'est pour en profiter, c'est pour passer des bons moments à table. C'est pas pour rester collé au fourneau.
On est d'accord. Alors, on va commencer par l'entrée. Une entrée toute simple. Écoutez, que vous pourrez refaire dès aujourd'hui ou pour le réveillon. Ça commence par une pâte feuilletée qu'on va cuire entre deux plaques.
Voilà, hein. C'est une tarte à partager. En fin de compte, on achète dans le commerce.
Elle est belle. Hein.
On trouve très souvent des pâtes feuilletées déjà pré-étalées.
Oui, pur beurre, évidemment.
Pur beurre, bien sûr, de préférence bio. On va la cuire entre deux plaques, c'est-à-dire que vous allez prendre une plaque, un papier cuisson, la pâte feuilletée, un papier cuisson et une plaque. Et vous passez ça au four pendant une quinzaine de minutes, entre 100 et 150 degrés, ça va dépendre un peu de la puissance de votre four. Mais l'important, il faut vraiment que ce soit très très cuit, voire à peine un peu trop cuit, ce n'est pas très grave. Parce que tout ce qui est pâte, il faut vraiment que ce soit cuit, parce que sinon on a le côté farineux. Tandis que la pâte feuilletée, même si un côté une pointe d'amertume, ce n'est pas dégénant.
Alors qu'est-ce que vous mettez dessus? Parce qu'il y a une garniture qui est presque printanière à la surface.
Voir. Pendant que ça cuit, vous prenez de la mascarpone.
Oui.
Vous prenez de la mascarpone,
fromage
italien que vous assaisonnez de sel de poivre, un peu d'huile d'olive, du curry et que vous mélangez tout simplement.
Et on tartine.
Après, on va attendre que la pâte feuilletée soit cuite.
Ah oui, d'accord.
En train de cuire. Après, on va tailler des endives. J'ai pris les produits de saison, des endives. On va tailler du céleri branche et j'ai pris un peu de betterave chokia, la jolie betterave qui ressemble un peu
la marbrée,
qui est marbrée. Je prends des Saint-Jacques, ce produit de saison. Il faut compter deux Saint-Jacques par personne. Les couper chacune en quatre lamelles. On les assaisonne de sel, de poivre, d'huile d'olive et une pointe de citron. Et une fois que ma pâte feuilletée est cuite, je la laisse refroidir. Je tartine ma mascarpone et je dépose dessus tous les ingrédients que je vous ai cités.
En tous les cas, ça donne envie et ça sent pas mauvais.
Ça sent très très bon. Donc c'est simple, une pâte feuilletée avec une crème de mascarpone au curry, les Saint-Jacques en lamelles, la betterave Kyoja juste par-dessus et du céleri taillé très finement. Elle est magnifique, votre tarte.
Juste avant de l'apéritif ou l'entrée, vous la passez juste deux petites minutes au four, juste pour la saisir à peine un peu, mais en la gardant quand même tempérée.
Tiède, ouais.
Vous la coupez, vous la dégustez et vous avez une entrée. Ça fait le job. Voilà.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
Il y a un vin qui, pour moi, me vient tout de suite à l'idée. C'est un grand Riesling d'Alsace, mais sec. Parce que ce Riesling, il va aimer la Saint-Jacques et il va aussi aimer les épices. Et je trouve que la liaison entre les deux se fera à travers le vin.
Alors pour le plat, on va aller du côté de Dinard, de Saint-Malo, un grand classique qui réchauffe.
Ouais, du Pays Gallo. C'est une frigousse.
Une frigousse, voilà.
C'est un plat très, très convivial.
Mijoté,
c'est très simple. C'est pigeon, canard, volaille, coupé en morceaux. On fait revenir dans une cocotte en fonte. On rajoute de l'oignon et du lard. On fait mijoter un peu, on couvre de cidre et on laisse mijoter pendant 45 minutes, une heure. Au bout de 45 minutes, une heure, on rajoute des artichauts coupés en morceaux.
Ah oui, c'est bon.
Vous pouvez très bien prendre un artichaut congelé, des châtaignes et, comme c'est la saison, des crônes.
Ah, c'est bien,
vous
les crônes.
Vous refaites bouillir 15 minutes et là, vous avez un plat, c'est une petite potée. Mais c'est une potée qui a du goût.
Potée parfumée.
Parfumée parce que c'est cuit dans le cidre. Et ça peut attendre. L'avantage que si jamais le repas se déplace, si l'apéritif traîne un peu, c'est pas grave.
Il n'y a pas de stress.
Y a pas
on
de
passe
stress.
Le réveillon comme voilà, ça tranquillement. La tarte, on la met au four juste avant de passer, hein, c'est ça, à table. Elle est magnifique, cette tarte. Et la frigousse.
Frigousse.
Qu'est-ce qu'on boit avec ça, Olivier Pouls?
Là, je vous ai proposé un pinot noir, mais pas un pinot noir de Bourgogne. Je vous emmène dans la Loire avec un pinot noir de Sancerre. Et vous allez voir que ce côté fruité, avec la rondeur de la sauce et en même temps la puissance de la viande, parce qu'il y a la viande rouge dedans, notamment du pigeon, ça marche assez bien. Donc un joli Sancerre de chez Henri Bourgeois.
Et ben voilà pour le menu du réveillon du 31 avec vos amis. Et pour le dessert, alors...
Je pense qu'on on a déjà bien cuisiné, donc le dessert, on va descendre le chercher. Et moi, je suis amoureux d'une brioche, une brioche aux pralines.
Ah, voilà. La praline rose de Lyon, regardez.
La praline rose de Lyon.
Clovis Cornillac est heureux, là.
De la maison Pralu.
Et ben voilà.
Qui est pour moi une des... Petite merveille de pâtisserie française.
C'est sublime ça. Ouais. Bah voilà, on se met les pièces sous la table et on ne fait rien pour la pâtisserie. On va l'acheter chez un joli pâtissier.
Exactement.
Elle est bien cette brioche.
Profiter, on a
la praline rose. Eh bien, merci beaucoup Yves Condebord et bravo pour ce menu avec nos invités et non pas au fourneau. Chaque samedi, vous pouvez compter sur nous, vous le savez, pour répondre à vos questions, un doute sur une recette ou un ingrédient. Eh bien, on vous dit tout juste après ça avec Clovis Cornillac qui est venu nous voir avec son joli film Veto, une belle comédie familiale. À tout de suite.
La table des bons vivants sur Europe 1. Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Ah, on se régale au studio Merlin ce samedi midi avec Clovis Cornillac, notre invité, qui ne... laisse pas une bouchée de la frigousse hein, réalisée par Yves Condebord pour
ni
le menu.
Ni de la tarte.
Hein, ni de la tarte, voilà.
Qui est formidable. Et le vin est vraiment l'accord avec le vin, avec le Sancerre est super. C'est une super idée.
Vous retrouverez toutes les références sur europe1.fr et c'est la même adresse hein, pour vous abonner au podcast si vous voulez réentendre cette séquence que nous venons de vivre il y a quelques minutes où Yves Condebord nous a fait un menu de réveillon sans passer justement le réveillon au fourneau. Et cerise sur le gâteau, la griotte sur la forêt noire, c'est la présence de notre invité Clovis Cornillac qui est avec nous. Vous êtes à l'affiche de Veto, une comédie familiale dans laquelle vous jouez un vétérinaire qui compte pas ses heures, hein, Clovis, un peu débordé par la vie de famille. Et à un moment dans le film, vous faites à manger aux enfants, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce ne soit pas de la grande cuisine quand même. Hein.
Non, ce n'est pas de la grande cuisine, mais je pense qu'il soigne mieux les animaux qu'il ne fait à manger.
C'est ça. Il fait une purée à l'eau à ses enfants.
Il fait une purée à l'eau, il n'y a pas de lait, il n'a pas le temps, et évidemment, les petits gars, parce qu'ils ont deux petits gars... Bah, je ne prive pas de dire que c'est quand même bien meilleur avec maman.
Ben oui, et vous faites des pâtes crues aussi. Hein. C'est pas al dente, c'est cru.
Voilà, c'est le principe, il faut que ça aille vite.
Alors en plus d'être une comédie, c'est un film qui parle aussi de l'attachement des paysans pour leurs animaux. Hein. Vous qui aimez les plats canailles, on vient de le voir avec nous à cette table, Clovis Cornillac, manger de la viande n'est pas incompatible au bien-être animal. Nous sommes d'accord.
Non, je ne pense pas du tout. Après, il y a une règle naturelle, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est parti en sucette il y a des années... sur
l'agriculture intensive.
Voilà, où tout ça est devenu n'importe quoi. Et en parallèle de ça, il y a eu une prise de conscience de se dire on en mange trop, ce qui n'est pas faux. Tu n'es pas obligé de manger de la viande tout le temps, fais un circuit court et cherche des produits qui sont super bons. Et où les éleveurs avec qui j'ai travaillé, par exemple, là pour les vétos, c'est des gens qui, avec leurs bêtes, ont une relation qui n'est pas du tout celle qu'on peut imaginer. Donc, il y a une projection comme ça, mais on peut tout dire, en fait. Il y a des choses qui sont horribles, il suffit de les montrer, tu dis alors tout est horrible. Il y a des choses formidables, et tu dis, ah ben non, en fait, tout est formidable. C'est ni l'un ni l'autre, il faut aller chercher, et il faut qu'il y ait une prise de conscience qui est en train d'émerger. Donc, j'espère que... Ça va continuer comme ça.
Oui, on continue, on en parle justement tous les samedis.
Pour le vin, on a la même chose.
Même chose pour le vin, absolument. Oui.
Il faut en boire moins, mais
mieux.
Du meilleur.
Mais voilà, comme la viande.
Les vins n'ont jamais été aussi bons qu'ils ne sont aujourd'hui.
Ouais. Alors vous le savez, chaque samedi, on essaye de répondre à vos questions pour vous aider en cuisine, amis auditeurs. Eh bien, nous avons du public ici aujourd'hui avec nous au Studio Merlin. Eh bien, on va écouter vos questions. Sur quoi peut-on vous aider ? Bonjour, mademoiselle.
Bonjour. Donc moi, je m'appelle Marine et ma question pour vous aujourd'hui, c'est comment réussir la cuisson du foie gras au sel, c'est-à-dire que le foie gras ne soit pas trop salé.
Pour ça, il faut tout simplement, il faut le saler avant, mais ensuite, il faut l'entourer de gaz, qu'on achète en pharmacie, hein, tout simplement, pour éviter que le sel qui est au contact du foie gras ne rentre dedans et ne vienne trop saler le foie gras. Donc, il faut l'envelopper d'une petite couche de gaz.
Et si on veut faire un mi-cuit traditionnel, c'est effectivement 12 grammes de sel, 6 grammes de poivre au kilo.
Même pour la recette que donne Olivier, qui est très bonne.
Oui, il faut assaisonner.
Voilà, il faut assaisonner le foie gras à la base et il faut partir sur une base de 12 grammes au kilo. Donc là, quand on est vraiment à 12 grammes au kilo, c'est un foie gras qui n'est vraiment pas trop salé.
Et 6 ensuite, grammes de poivre aussi.
Voilà,
hein.
Moins de grammes de poivre.
Moins de grammes
il faut
poivre.
Compter à peine 2 grammes et demi.
À peine 2 grammes, j'en mets trop moi, alors c'est pour ça qu'il est poivré.
Et 1 litre de cognac.
Après, ça va dépendre un peu
Clovis
de
Cornillac.
De vous aussi, quoi.
Non, moi je suis très poivre.
Moi aussi, je suis
j'ai
très poivre.
J'ai du mal avec le sel et je suis très sensible au poivre.
Alors une question tiens, sur laquelle on pourrait vous aider, une recette peut-être, Clovis Cornillac.
Alors, en tous les cas, je souhaite à tous les auditeurs, moi j'en ai jamais fait, mais j'en ai mangé des très bons, c'est poulet au vin jaune. que je trouve être voilà, quand c'est réussi, avec, accompagné évidemment d'un vin jaune, ça va de soi, c'est un moment très, voilà, ça sonne autrement, c'est un voyage en fait.
Un bon poulet fermier bien élevé, qu'on va acheter chez le boucher en morceaux, on fait revenir tous ces morceaux dans un mélange de beurre et d'huile de tournesol, hein, Yves Candebord,
totalement.
Une belle coloration, et ensuite on va mouiller avec du vin jaune, effectivement.
Alors, c'est là je pense qu'il y a toute l'astuce à réaliser, c'est que par rapport à la quantité de vin jaune que vous avez utilisé, il faut en mettre à peine, je dirais, un gros tiers sur la base. Voilà, parce que le fait de le mettre...
Là-bas, en Franche-Comté, on y va 5 fois. On rajoute 5 fois du vin jaune pour qu'il soit bon.
Il faut faire comme ça, parce que le problème de mettre le vin jaune, tu sais, on avait passé au début, le poulet ne va pas s'imprégner, mais il faut savoir qu'après, dans la sauce, le vin jaune qui a été cuit, on ne retrouve pas la même saveur que le vin jaune...
on rajoute petit à petit du vin jaune.
Et on finit vraiment à la fin avec la grosse quantité avant la liaison.
Et un peu de crème aussi.
On met la crème pratiquement sur la fin de la cuisson.
Et des morilles, séchées qu'on aura fait tremper, qu'on va mettre à l'intérieur. Quelques échalotes, même si vous voulez au départ.
Qu'on va boire le vin jaune, mais le vin jaune, on va le garder pour le boire. On ne va pas utiliser du vrai vin jaune qui est quand même très cher pour la sauce, qui est un vin unique au monde. On va utiliser du savagnin, qui est le cépage qui sert à faire le vin jaune. Un savagnin de type oxydatif, ça marchera très très bien pour la sauce.
Bien sûr. Fabuleux. On se retrouve dans un instant avec Clovis Cornillac. Vous allez passer sur le grill de notre questionnaire, Clovis. Ce sera juste après les 2 minutes du champagne d'Olivier Pouls. A tout de suite sur Europe 1 et bon samedi midi.
On passe à table sur Europe 1. Laurent Mariotte.
Dernière partie de notre émission consacrée au réveillon du 31 en public au studio Merlin avec notre invité Clovis Cornillac. On va parler champagne dans un instant avec le camarade Olivier Pouls, mais avant on va parler vin parce que vous êtes un amateur de vin, Clovis Cornillac.
C'est une passion, j'adore ça.
Et vous n'aimez pas le vocabulaire du vin, vous aimez bien inventer des mots à vous en fonction des sensations que vous allez vivre en dégustant.
Quand j'ai découvert le vin, moi j'ai découvert par en bas, quoi. Je n'ai pas découvert le vin en me disant... je vais être œnologue j'ai découvert le vin à table. Donc,
vin de copain.
Ouais, la découverte de se dire qu'est-ce que c'est que cette chose, quoi. Et l'envie, en fait, elle a été très rapidement quand j'ai commencé à aimer ça. Et je me suis rendu compte que il y avait évidemment toute une culture du vin et qu'il y avait aussi toute une bourgeoisie du vin. C'est-à-dire, il y avait tout un langage nécessaire. Hein, oui. Parce qu'entre spécialistes, il est important d'avoir un langage commun.
Mais intimidant, parfois.
Mais qui est un peu sectaire, qui crée une sorte d'endroit où tu as le droit ou pas le droit d'aller. Et je me dis, c'est bizarre, parce que c'est exactement le sentiment inverse que j'ai avec le vin. C'est l'impression que le vin est un endroit de partage, de communication, tu as le droit de te gourer, tu as le droit de tout ça. Par exemple, il y a une chose que j'ai toujours détesté faire, c'est la dégustation à l'aveugle, qui... pour des œnologues est très importante, puis c'est une manière d'aller chercher, d'essayer de vraiment faire un travail, mais pour le coup, c'est un travail. Or, pour moi, ça devient un jeu. Et si c'est un jeu, je ne bois plus.
Non, mais doit rester un jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grande école de l'humilité que la dégustation à l'aveugle. Ouais. Personne n'est infaillible.
Non.
L'aile ou la cuisse, ça n'existe pas dans la
vraie. Non, bien sûr que non.
Mais ça doit être un jeu, en fait.
Oui, mais alors du coup, en fait, comme moi, le rapport que j'ai au vin, c'est un rapport de plaisir. C'est comme, j'adore le foot, je n'ai jamais parié sur le foot. C'est-à-dire que si j'ai un pari, je ne regarde plus le match comme j'aurais aimé le regarder. Si je dois deviner quel est le vin, je bois plus le vin. Je suis dans un truc qui n'est pas mon travail, qui n'est pas l'endroit où je me régale.
Il faut que ça reste un plaisir et une sensation spontanée.
Et du coup, j'ai des gars, les vignerons, ceux qui fabriquent, et puis des vinificateurs qu'on connaît et tout ça, des grands camarades. Ils échangent entre eux avec des trucs et moi, je viens avec ce qui me vient.
Mais vous avez raison, il faut décloisonner tout ça. Les sommeliers, les œnologues, ça, se sont un peu trop appropriés ce monde en jargonnant et en donnant l'impression aux autres qu'ils n'en font pas partie.
Eh bien, on va décloisonner avec le champagne. J-3 avant le réveillon, Olivier Pouls. Alors, traditionnellement, évidemment, on boit du champagne. C'est ce que vous allez faire, Clovis Cornillac, du champagne au réveillon?
Je vais en prendre un peu. Je suis pas un fou de champagne. J'ai découvert à Reims, grâce à des gens qui m'ont emmené dans les grands châteaux et tout ça, où j'ai bu des millésimés et des choses où tu te dis, c'est du grand vin.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire qu'on passe ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce rapport. Le rapport au champagne de base n'est pas quelque chose qui me flatte. Mais en revanche... le grand champagne, c'est à tomber par terre de finesse, de vinification, c'est fou, quoi.
Qu'est-ce qu'on choisit comme référence pour faire le réveillon du 31? On prend la même référence pour tout le repas, Olivier Pouls?
Alors on peut, mais tout d'abord, il faut bien dire que le champagne, ça reste un produit assez cher et que notamment les bons champagnes sont très chers. Donc si on n'a pas les moyens ou si on n'a pas envie de dépenser ces budgets-là, il vaut mieux acheter un très bon crémant. Ce sera toujours meilleur qu'un mauvais champagne. Voir des vins blancs, voir des vins rouges, on se fait plaisir. Il ne faut pas absolument qu'il y ait du champagne à table. En revanche, si on décide d'en mettre, il vaut mieux qu'il soit bon. Et donc c'est un petit budget. On peut bien sûr faire tout un repas au champagne qui va aller de l'apéritif au dessert. On va picorer, on va se faire une petite soirée sympathique. Dans ce cas, on va prendre un champagne, on va dire de type un peu consensuel, un brut sans année, qui va aller effectivement du début à la fin et tout le monde va s'y retrouver. Mais après, on peut aussi construire un repas autour du champagne et associer les mets avec les champagnes.
Alors par exemple, si on a des fruits de mer, des coquillages, au démarrage, on va aller sur quoi ? Sur un champagne, un brut nature, un non dosé, qu'est-ce qu'on choisit ?
Dans cet esprit-là, je vous ai apporté un extra brut, par exemple, de chez Leclerc Briand. Donc ce sont des champagnes qui sont très peu dosés, avec une minéralité
très
affirmée.
Peu dosé, ça veut dire qu'il y a très peu de liquide d'expédition qui va donner ce petit côté arrondi au champagne.
Exactement, hein. Exactement. Donc ce sont des champagnes plus traçants, comme on dit, pour utiliser un mot parfois un petit peu compliqué, avec une perception d'acidité un peu plus marquée, mais qui ont beaucoup de caractère et notamment qui ont souvent des côtés un peu iodés. Et je reviens à la tarte que nous a, à la magnifique tarte d'Yves tout à l'heure. C'est une association avec cette tarte et avec cette Saint-Jacques qui irait parfaitement bien.
Si on a de la viande, par exemple, au menu du réveillon, on avait une belle cocotte de volaille qui nous vient de Dinard et du Pays Gallo avec Yves. Si on veut faire un tourne d'eau, une viande rouge.
Si on était descendu dans la cave d'Europe 1, on aurait pu remonter un vieux champagne rosé, par exemple, parce que dans le champagne rosé, il y a du vin rouge, donc il y a forcément un peu de tanin. Et quand ça vieillit, ça donne un peu plus de puissance et d'ampleur, et notamment sur le pigeon, un vieux champagne rosé, c'est une merveille.
Et pour le dessert ?
On oublie les champagnes demi-secs, c'est totalement passé de mode, c'est vrai que c'est quelque chose qui se buvait il y a après-guerre, hein. Les champagnes sont de moins en moins dosés, donc c'est vrai qu'aujourd'hui on n'aime plus trop ça, mais franchement en fin de repas, il y a des choses à redécouvrir, qui sont des champagnes qui sont effectivement plus arrondies, un peu plus suaves et qui sur les desserts se marient bien, il ne faut pas les oublier.
On vous mettra les références sur europe1.fr et on vous retrouve tous les jours du lundi au vendredi dans l'équipe sauvage
de champagne.
Du camarade Mathieu Noël, élevons notre...
Alors, mon verre de champagne.
Oui c'est ça, pas de
mon
coupe j'allais dire.
De champagne. Parce qu'on boit le champagne dans des verres à vin, on le rappelle.
On est bien d'accord.
Ben oui, parce qu'on ne sent pas, puis il y a le nez qui bloque en plus.
Et puis tout, ça, tu dis, c'est l'inverse, c'est un truc, tu fais, mais pourquoi enfermer quelqu'un ?
C'est ça, c'est
super bizarre.
Cher Clovis Cornillac, c'est l'heure de vous passer sur le grill de notre questionnaire des bons vivants, et vous êtes le dernier de l'année, alors on y va. Quel est le goût de votre enfance, Clovis Cornillac ?
Alors, il y en a plusieurs, mais c'est associé, évidemment, comme pour la plupart d'entre nous, je pense à ma grand-mère. Ce serait le matefin, la cervelle, les tripes, et il y avait la crique aussi qu'elle faisait, et les tomates farcies dont ma mère a repris la main.
Ah,
donc c'est chouette.
Très
c'est bien.
C'est,
donc la tomate farcie et la cervelle, mais elle a la flemme de la faire. Mais...
Votre maman, Myriam Boyer, qui est au théâtre actuellement, au petit théâtre du gymnase,
absolument,
d'ailleurs. Hein.
Absolument, je conseille à tout le monde.
Une belle pièce qui s'appelle Louise au parapluie. Le premier plat que vous avez cuisiné, Clovis Cornillac ?
Je pense que c'est des œufs. Et je pense qu'ils étaient au plat parce que je cherchais, j'imagine la forme. L'omelette me faisait peur parce que je ne comprenais pas la différence entre une omelette et des œufs brouillés. C'est les œufs au plat, je pense. Ouais.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
J'ai eu la chance d'en avoir beaucoup, mais je dirais en Inde, et la première rencontre avec la nourriture indienne en Inde, ça a été un drôle de choc. Ouais.
Votre pire repas ?
Je crois que le pire, c'était voilà, chez des amis, et malheureusement...
C'était trop cuit, pas cuit.
Et tu manges.
Oui, c'est ça, c'est on dit rien, on est poli. Quoi.
Voilà, c'est pas comme au flunch où tu peux faire... Ouais, je suis désolé, en fait, je veux pas manger, je mangerai ce soir, ça ira. Là, le problème, oui, j'ai un souvenir assez violent de...
On les citera pas.
De politesse.
Mais ils sont toujours amis.
Ah oui, oui, il n'y a pas de souci, mais souffrance.
Quel plat emmèneriez-vous sur une île déserte, Clovis Cornillac ?
Je pense que ce ne serait pas un plat, mais ce serait des pâtes. Parce que j'ai l'impression que les pâtes et la pomme de terre, c'est les deux choses que je peux manger en inventant systématiquement mille goûts. Quoi.
Les assaisonnements, donc, les sauces.
Et j'ai du plaisir à le manger, évidemment.
Qui sont les invités de votre dîner idéal ?
Je peux pas, j'ai vraiment beaucoup de gens que j'aime beaucoup.
On ne peut pas les citer tous ?
Non, ce serait franchement... en tout cas, c'est un banquet.
Votre adresse secrète ?
Pas facile. Parce que comme elle est secrète, je préfère pas trop en parler.
C'est
donc,
ça, c'est le principe du secret.
Ouais.
Et le dernier plat que vous avez cuisiné ?
Qu'est-ce que j'ai dû cuisiner? Ben, probablement, j'ai fait un brunch, donc des œufs, c'est marrant.
La boucle est bouclée. Et le mot de la fin, F-A-I-M, Clovis Cornillac.
Bon appétit.
Et ben voilà, et bon réveillon, et bon réveillon, et merci d'être venu.
Merci à vous.
Vous êtes à l'affiche des Vétos de Julia Manoukian en salle le 1er janvier, une belle comédie familiale. Merci à toute la bande des Bons Vivants, Lucille Escourou, Julien Amat, Marion Sauveur, Olivier Pouls et mon cher Yves Candebord. Merci à Jean-Luc Arblade à la réalisation, Agnès Baudin à la programmation. Les recettes vous attendent sur europe1.fr. Même adresse, hein, vous le savez, pour vous abonner au podcast et réécouter l'émission. Rendez-vous l'année prochaine, samedi prochain, avec le romancier Yann Kefelec. Bon préparatif de réveillon et bon week-end, Justine. Merci, Clovis Cornillac.
Merci, vous saluerez bien Yann Kefelec, que j'aime beaucoup.
Eh bien, on transmettra. Merci, Clovis Cornillac.
Joyeux réveillon à tous. Bonne année.
Bonne année. Ouais. Bonne fin d'année.
Bonne fin d'année. Pas avant, c'est comme les anniversaires. Pas avant.
Voire bon boudin.
Bon boudin.
Oui, bonne fête surtout à tous. À samedi prochain, du coup, pour la galette. En attendant, le programme continue sur Europe 1 avec votre journal de la mi-journée, présenté ce week-end par Jacques Terrance. Et à 15h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Morizet pour revivre un des meilleurs moments de Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. C'était quand elle a reçu Patrick Braoudet et Arthur Juniau. Alors restez avec nous, il est midi 28 sur Europe 1.